Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h08 de retour dans les grandes gueules du sport. Avec ce matin Christophe Cessieux, David Douillet, Julien Beneteau, Denis Charvet. Merci infiniment de votre fidélité. On est très heureux d'être avec vous. Si vous avez raté le débat sur Raphaël Nadal, 14 Roland-Garros, est-ce le plus grand exploit de l'histoire du sport? N'hésitez pas, après l'émission, à aller réécouter tout ça tranquillement au podcast. Un très très bon débat. Mais GG, sachez que nous allons parler de Kylian Mbappé dans quelques instants et de la virée suédoise. Ce sera le bras de fer. 10h30, la punchline, Tadej Pogacar répond aux suspicieux, à ceux qui doutent de ses performances. Faut-il faire confiance aux champions slovènes? Et puis 10h45, la crise de la soixantaine, signé Christophe Cessieux, les joueurs de tennis, les dirigeants de foot, Pierre Mignoni, l'entraîneur de rugby, arrêtez d'insulter les arbitres. Ce sera le coup de gueule de Christophe. C'est le grand moment, les 20 ans des grandes gueules, c'est l'alerte. Vous pouvez vous inscrire en envoyant GG au 732-16. GG au 732-16, vous avez 5 minutes à partir de maintenant. Denis, comment on écrit GG?
G-E-G-E. Non?
Gégé. C'est mon ami Gégé.
Ah, oui, oui, alors si vous arrivez à comprendre, c'est très simple, c'est juste deux lettres. C'est pas G et G et E. C'est un G.
G et G.
À côté un autre G. Voilà, c'est très simple.
Adrien, si tu nous écoutes,
il est 10h10.
Non, mais exprès, c'est mon ami qui s'appelle Gégé, bien sûr.
Alors, écoutez-moi bien.
Mon meilleur ami.
Pour débuter cette nouvelle heure, je vais vous citer un proverbe suédois. Évidemment,
évidemment,
ça correspond à notre débat. Proverbe suédois qui dit « Quand la mer est tranquille, chaque bateau a un bon capitaine ».
RMC, le bras de fer GG.
Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau.
À votre ordre, mon capitaine.
Un bon capitaine, c'est quelqu'un qui est avant tout tourné vers l'équipe. Quelqu'un qui est capable d'être rassembleur, fédérateur.
Le capitaine est un pain.
Mbappé, Mbappé qui contrôle le ballon. Mbappé, c'est trop
c'est
là.
Quoi, ça.
Chacun est... Et le capitaine qu'il pense être, moi je pense que je vais être un capitaine qui va être tourné vers les autres.
Capitaine, êtes-vous blessé?
Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé.
Papi qui avance, papi qui essaie de crocheter, il passera pas.
Voilà, c'est une nouvelle responsabilité, c'est quelque chose que je vais assumer naturellement et avec lequel je vais pas me mettre de pression.
Le capitaine qui?
Allez, papi accélère, papi, papi la frappe.
Voilà. Elle est pas cadrée.
Avant tout, c'est un kiff. Je suis capitaine de mon pays, donc ça c'est quelque chose qu'on peut pas, éluder.
Que tous nos joueurs ils soient en bonne santé. Chacun mange bien, dorme bien.
Capitaine, capitaine, vous n'êtes pas le capitaine.
Ah, le capitaine Flamme est-il en train de se brûler les ailes? Une image vaut mille mots, paraît-il. Jeudi soir, Kylian Mbappé a été pris en photo à Stockholm, dans les rues de la capitale suédoise, au programme restaurant chic, boîte de nuit select. Jusqu'ici, rien de problématique. Le seul hic, c'est que c'était le soir d'Israël-France et que le capitaine des Bleus avait zappé le rassemblement pour se reposer et guérir ses bobos. Rien de grave, évidemment. Rien de sanctionnable, évidemment. Mais lui, le maître en communication, enchaîne désormais les petites polémiques ces derniers mois. Kylian Mbappé est-il en train de se perdre? A-t-on perdu Kylian Mbappé? Dans le coin gauche, la team oui, représentée par Christophe Cessieux et David Douillet. Dans le coin droit, la team non, Julien Beneteau et Denis Charvet. C'est donc un 2 contre 2. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, suiveur des Bleus, Nicolas Pelletier. Bonjour Nicolas.
Salut les amis, salut à tous.
Alors raconte-nous déjà les coulisses de cette virée suédoise.
Oui, Mbappé qui était absent de ce rassemblement des Bleus, mais son ombre était bien présente entre Clairefontaine et Budapest. Jeudi soir, à quelques minutes du coup d'envoi, c'est une story publiée par la star des Bleus qui montre qu'il suit encore de près son équipe. Bon match, lâche-t-il sur Instagram. Mais la communication s'arrête là lorsque la presse suédoise dévoile cette virée nocturne de Kylian Mbappé à Stockholm en plein pendant le rassemblement des Bleus. L'avion avec lequel il a atterri en Suède à 18h51, mercredi, continue de faire son tour d'Europe. Il a redécollé de Stockholm hier pour atterrir à Ajaccio à 16h59. Alors cette virée était totalement autorisée dans la mesure où Kylian Mbappé a obtenu quelques jours de repos de la part de son employeur, le Real Madrid. Il reprendra l'entraînement en début de semaine prochaine. Mbappé a même eu un programme d'entraînement individuel. L'attaquant n'est donc absolument pas en faute, ni par rapport au Real, ni par rapport à l'équipe de France, et personne ne l'oblige à rester fixé dans son logement à Madrid sur ses jours de repos. Officiellement, cette excursion n'est pas un sujet pour l'entourage des Bleus, mais dans les faits, cela n'empêche pas les joueurs tricolores d'en parler entre eux, même si personne ne veut jeter la pierre au capitaine absent. Tout ce feuilleton se déroule pendant ce rassemblement des Bleus, et pour le moment, personne n'arrive à répondre à la question principale de manière claire, précise, pourquoi Mbappé n'est pas avec l'équipe de France. Cette semaine, Didier Deschamps a simplement justifié l'absence du joueur par des éléments en sa condition.
Merci beaucoup Nicolas Pelletier pour ces précisions. Sachez qu'il y aura une conférence de presse aujourd'hui à Clairefontaine de l'équipe de France et j'imagine qu'ils parleront, en tout cas qu'ils seront interrogés sur cette virée suédoise de Kylian Mbappé. Est-il en train de se perdre ? On vous a posé cette question sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport et vous allez voir, pour l'instant il n'y a aucun débat. 83% oui, 17% non. Ils sont consternés, ils vont devoir rattraper un peu de leur retard, c'est Denis Charvet et Julien Beneteau. Qui veut commencer là ? Parce que c'est à vous de commencer les gars, vous avez du boulot. Hein.
Ouais, le capitaine Julien, de la Fed Cup et le capitaine des babas avec ça.
Julien, vas-y, est-il en train de se perdre ?
Il faut bien préciser, voilà, est-il en train de se perdre ? C'est pas, est-ce que c'est un bon capitaine de l'équipe de France ? Est-ce que c'est lui qui doit être le capitaine ? Est-ce qu'on doit lui retirer le brassard ? Est-ce que si, attention.
La question c'est, a-t-on perdu Kylian Mbappé ?
Voilà. Oui, ah, c'est pareil. Oui, mais non, parce que là, si les auditeurs lisent bien
si
la question.
Si ça commence comme c'est que ça, c'est que vous n'avez pas grand-chose à dire.
Vous êtes pas serein sur les appuis, les deux là.
Mais non, c'est 60-40 pour nous. Nous dites pas le, alors attendez, nous dites pas le débat qu'on ne va pas faire. Répondez à cette question.
Moi, j'ai une question, a-t-on perdu avec Kylian Mbappé ?
Oui, bah vas-y, réponds à non.
Kylian Mbappé, il faut toujours. C'est vrai qu'on l'a pris pour le gendre idéal, qu'il nous a vendu cette image-là, et je pense qu'on s'est trompé. C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas la vraie personnalité de Kylian Mbappé.
Non, ou peut-être qu'il a évolué et changé aussi.
Non, mais il a évolué, mais il n'était pas si de gendre idéal qu'on l'a bien voulu le croire. C'est ça. Pour moi, ma réflexion, elle est là. Donc, je veux dire, quand on dit, est-ce qu'on l'a perdu ? Finalement, je pense qu'on ne l'a pas perdu. Qu'il est réellement ce qu'on voit aujourd'hui, qu'on le découvre. C'est en ça que je réponds non, moi. Je dis, mais on s'étonne. Le mec, il a 25 ans.
C'est nous qui étions perdus par rapport à notre ressenti de
Kylian. Oui, bien sûr. Mais moi, le premier.
On n'a pas su
Moi, le premier, il parle en français. Il parle 15 langues. Il parle couramment espagnol, couramment anglais. Puis tu te dis, mais le mec, il a un cerveau qui n'est pas comme le mien. Et en fait, il est comme moi. À 25 ans, il pète les plombs parce qu'il est en train de vouloir boire un coup en boîte de nuit, de prendre un jet privé.
Les plombs, ça, tous les joueurs de foot le font.
C'est ce que je dis. Non, mais lui, c'est un excès parce qu'il ne le faisait pas avant. C'est-à-dire qu'on ne le voyait pas depuis sa première fois où vraiment il fait une sortie qui est symbolique. Parce que pour moi, c'est anecdotique.
Attends, tu sais quoi ? On l'a déjà vu avec le Paris Saint-Germain pendant sa période de vacances partir en Espagne avec un jet privé ou pas. Après, forcément, ça peut choquer l'opinion publique, mais c'est à la hauteur de l'emploi. Non, mais juste,
c'est vrai.
C'est déjà arrivé.
Mais il n'y a pas longtemps.
Sauf que c'était pas. Oui, mais c'était pas. Je pense que tout le monde s'en moque. Je pense que tout le monde sait que les footballeurs peuvent souffrir des choses que le commun des mortels ne peut pas souffrir.
Mais le problème,
c'est que c'est pendant un rassemblement de l'équipe de France qui avait déjà fait polémique. Il est là.
Ce qui choque, c'est le timing.
Il n'a pas lieu d'être.
Effectivement, c'est le timing qui choque. Pour moi, c'est une escapade amoureuse. Et le fait, c'est que c'est la symbolique qui tue l'histoire. Donc, je veux dire, qu'il était maladroit, qu'il n'ait pas été très intelligent et subtil dans sa démarche, c'est oui. Oui, à 1000%. Mais moi, je pense que Kylian Mbappé, on ne l'a pas perdu dans le sens.
Quel est le deal ?
Dans le footballeur Mbappé, on ne l'a pas perdu.
Quel est le deal qu'il a avec Didier Deschamps et le staff médical de l'équipe de France concernant ce rassemblement ?
D'aller en boîte.
Non, c'est quoi ? On te laisse au repos, on te laisse te régénérer, on te laisse aux mains du Real Madrid parce que c'est ton club. Ensuite, avec le Real Madrid, c'est quoi le truc ? Il a un programme, il a 3-4 jours de repos. Aucune obligation de rester enfermé chez lui à Madrid, il le fait. Donc là-dessus, dans les faits, voilà.
Tu prends pas Didier
Julien,
pas fait,
Julien c'est le soir du match.
Mais alors, c'est
le soir du match.
Ça veut dire qu'il
s'en fiche complètement, tu vois.
Non, je suis pas d'accord avec toi.
Alors, on va laisser s'exprimer le camp du oui.
Comment vous réagir les coéquipiers ?
Alors, voilà. Ça c'est une autre chose. David, je suis d'accord avec toi vis-à-vis des les coéquipiers de l'équipe de France peuvent mal le prendre. Ça, je suis d'accord avec toi.
Mais ce qu'il envoie, c'est très mauvais, ça c'est sûr.
Attends, David et Christophe.
Quand t'es capitaine et que tu symbolises la tour de contrôle d'une équipe de France et que précisément le soir même où il joue, t'en as rien à cirer, tu vas manger au resto et tu vas en boîte de nuit. Excuse-moi, les pulasseurs qui sont sur le terrain, ses potes qui ont cette image-là maintenant dans la tête, qui ont cette information-là, comment vont-ils le considérer pour la suite ? Tu vois, quelle crédibilité tu vas avoir désormais pour les prochains matchs sur le terrain, puisque tu te fiches de ce qu'ils peuvent faire ou pas.
Non mais dans ce démarche-là,
oui, la faute originelle ouais, dans tout c'est d'avoir mis le brassard sur le bras de Mbappé. Mbappé. Moi, oui, on avait fait ce débat il y a très longtemps. Moi, je disais, c'est une erreur monumentale de le mettre capitaine. C'est un soliste, c'est un individualiste, c'est un mec qui fait tout par rapport à lui seul.
Il est pas collectif.
Déjà, tu t'es mis à dos Griezmann. T'as perdu Griezmann sur ce coup-là, et je suis sûr que Griezmann serait encore en équipe de France s'il était le capitaine de cette équipe de France. Il serait un capitaine modèle. Non, je pense que Kylian est complètement, on l'a complètement perdu. Faut dire qu'à 25 ans, il a tout. Il est une star mondiale. Il est le capitaine des Bleus sans l'avoir vraiment demandé. Ça lui est tombé dans le bec tout cru, tout cuit. Il a une Coupe du Monde en poche déjà. Il a un contrat record avec le plus grand club du monde. Il est milliardaire et finalement il a encore que 2-3 objectifs à obtenir, c'est-à-dire gagner une Ligue des Champions avec le Real et éventuellement être Ballon d'Or un jour. Mais avec son niveau actuel, ça va être compliqué. Quant à tout obtenu.
Ça fait un moment qu'il est riche, Christophe.
De quoi tu peux encore rêver et qu'est-ce qui peut bien encore te motiver? Eh bien, je pense que ce qui peut encore le motiver, c'est de retrouver une adolescence qu'il n'a pas connue quand il avait 17 ans. Quand il avait 17 ans, il était sur les terrains, il travaillait comme un malade pour devenir un grand footballeur, pour gagner beaucoup d'argent. Eh bien, aujourd'hui, à 25 ans, il est adolescent. Je suis sûr qu'en Suède, il est allé retrouver une nana, il était avec ses copains, il a fait la fête. Et comment tu veux lui en vouloir pour ça? Certes, il n'est pas un modèle.
Mais tu en veux pas.
Je te dis qu'il est perdu. Il est perdu pour le football. Il n'est pas perdu pour la vie, mais il est perdu.
Excuse-moi, dans un reportage sur une chaîne concurrente envoyée spéciale sur le consacré.
Oui.
Qu'est-ce qu'il disait?
J'aimerais pouvoir aller manger tranquille dans une brasserie, aller avec des amis, faire la fête incognito.
Exactement.
Tranquille, sans que personne ne vienne me voir. Le lendemain matin, un bon brunch au soleil sur une terrasse. Il n'a jamais connu ça depuis qu'il a 17 ans. Eh ben, aujourd'hui, il a envie d'en profiter. Il s'en fiche de ce que les gens pensent. Il reviendra peut-être, si le cœur lui en dit.
Il reviendra. La seule chose qui m'inquiète par rapport à lui, c'est son caractère. Comme tu l'as très bien dit, c'est un individualiste. Donc, si tu veux, c'est ça qui m'inquiète le plus. Quand PSG, il a fait le ménage, tu me dis, il est jeune, il a 23 ans, il a fait le ménage au PSG. Hein. Il s'est pas embêté de virer Messi, de virer, comment il s'appelle, Neymar.
Mais il a tout eu.
Le PSG l'a bien voulu.
Oui, mais je pense qu'il
était. Madrid, il va pas faire le ménage.
Personne ne lui a jamais dit non.
Oui, mais tu peux pas dire qu'il est pas mature. Je pense sincèrement qu'il est mature. C'est pas là le problème. C'est qu'aujourd'hui, il pète les plombs parce que bon, mais il a envie de péter les plombs, mais on l'a pas perdu pour autant. Je pense que Mbappé, le joueur Mbappé, tu le reverras.
Écoutez ce que disait cette semaine très intéressant Ibrahima Konaté, joueur de l'équipe de France, défenseur, sur justement Kylian Mbappé et la vie de Kylian Mbappé.
C'est Kylian Mbappé, hein. Je pense que c'est à la hauteur de tout ce qui se passe autour de lui, le nombre de personnes qui le suivent, le nombre de fans qu'il a aujourd'hui dans le monde. Il le montre pas, mais je pense, hein, j'en ai jamais discuté avec lui, mais je pense que c'est quelque chose de pas facile à vivre, parce que c'est quelqu'un qui est jeune, mais il faut se mettre à sa place. Il est arrivé en équipe de France très jeune, il a gagné la Coupe du Monde très jeune, il a des nombres de sélections qui sont hallucinantes pour son âge, des nombres de statistiques également, et tout ce qui tourne, tout ce qui gravite autour de lui, c'est, il a pas de vie.
C'est bien.
Il a pas de vie.
C'est intelligent.
Voilà ce que dit Ibrahima Konaté. Ouais. Fabrice nous appelle au 32-16. Bonjour Fabrice.
Bah oui. Oui, allô, bonjour.
Bonjour, et vous allez pouvoir réagir évidemment les GG à ce son d'Ibrahima Konaté. Mais Fabrice nous appelle, il a très envie de débattre avec nous. Est-il en train de se perdre, Kylian Mbappé, ton avis?
Oui, ça, moi je pense qu'il est en train de se perdre, parce que pour moi, quand on est capitaine et qu'on représente un pays, on doit faire preuve d'exemplarité, d'impartialité, de voilà, parce que bon, il a eu quand même une image, une stature. Hein. Moi, je suis aussi sportif, enfin amateur, bien sûr. Mais voilà quoi, enfin je sais pas combien de gamins qui le regardent tous les week-ends, enfin qui rêvent de lui. Donc pour moi, il doit avoir une attitude exemplaire.
Et ça, on parlait du capitana, ça remet quelque chose. Dans le contexte, ben,
Oui, enfin, après, voilà, comme il disait l'ancien commentateur, oui, effectivement, il vit sa jeunesse maintenant. Mais bon, il doit amener une image, une image positive. Voilà, moi, je trouve que c'est un personnage qui est assez nonchalant, qui a des prises de parole sur des actes politiques, voilà, des choses comme ça. Voilà, il doit se contenter de jouer au foot. Puis moi, je trouve que c'est un petit peu à l'image de l'équipe de France de foot. L'autre jour, Jérôme Rotten faisait le débat sur les tenues vestimentaires, et je trouve que l'équipe de France, Didier Deschamps a peut-être plus, on va dire, son groupe entre les mains. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un petit peu bizarre.
Ok. Un petit peu bizarre. Mais est-ce que c'est de la faute de Kylian Mbappé ou c'est de la faute de Didier Deschamps d'avoir communiqué de cette façon pour expliquer qu'il ne serait pas au rassemblement et forcément tout
le temps. Est-ce qu'il avait le choix avec le Real Madrid?
Mais voilà, c'est ça.
Le
voilà.
Problème, et il a le choix, ça, il s'est fait naturellement. Mais il n'avait pas le choix.
Non, mais Denis, tu pouvais aussi dire. Tu pouvais aussi dire je le laisse au repos ces 15 jours et il est libre de faire ce qu'il veut.
Mais c'est ce qui se passe.
Oui, mais il n'a jamais eu ouvertement cette explication.
Oui, après, la seule maladresse, c'est que Mbappé, il sait très bien qu'il va être exposé, qu'il va être vu. C'est ça qui m'interpelle le plus, c'est ça, quoi.
Il avait pris des précautions, justement, à Stockholm.
Oui, des précautions, mais comme si on ne prenait pas.
Il avait fait supprimer les portables dans la boîte de nuit.
Déjà été masqué, mais il y avait un photographe, donc le photographe a dû faire son week-end.
Mais franchement, si tu pars à Stockholm, tout le monde va savoir que tu es là. Bon, mais le problème, il n'est pas là. C'est que la provocation à l'endroit où il l'a fait, je trouve ça un peu. C'est presque si vraiment tout ça est fait sciemment, que t'as envie de provoquer et l'équipe de France et le Real. Enfin, je sais pas.
Oui, mais est-ce que c'est de la faute aussi du Real et de Deschamps de ne pas avoir assez bien communiqué sur sa situation et lui se retrouve piégé là-dessus? Je veux parler au capitaine là de Fed Cup. Toi, en tant que capitaine, tu vois une de tes joueuses leader,
Garcia, en train de penser à Capoulos.
Non, mais faire ça, refuser une sélection, ne pas aller en sélection pour se reposer, au final, évidemment, c'est pas la même notoriété et médiatisation, mais imaginons, et puis tu la vois en fait en train de faire la fête alors qu'elle devait se reposer. C'est quoi l'impact sur le groupe?
Non, mais c'est juste pour revenir sur ce qu'a dit David. Je pense qu'effectivement, avec certains de ses coéquipiers, ça peut être. Ça peut être difficile à gérer. C'est à Didier Deschamps d'être clair avec son groupe.
Je te dis, ça sera difficile s'il n'est pas bon. S'il est bon et qu'il remet des buts, ça ne sera pas difficile.
Ouais, mais
il va falloir qu'il soit bon.
Non, mais à partir du moment où il vient pas parce qu'il a besoin de se reposer, se régénérer aussi et profiter et faire la fête et se régénérer dans la tête, ça fait partie aussi du repos pour être après frais et repartir à l'entraînement. Donc, c'est le soir d'un match, c'est compliqué. Vis-à-vis des autres, des coéquipiers, c'est compliqué. Mais après, tout dépend comment en interne Didier Deschamps il a expliqué à ses joueurs et à son groupe.
Non mais tu sais très bien que Mbappé, il sait très bien ce qu'il envoie quand même, Julien. C'est très bien ce qu'il fait.
Moi, je pense que c'est un garçon qui. Je pense que c'est un garçon qui a beaucoup de maturité, il a commencé très jeune, etc. Il a déjà, comme l'a très bien dit Christophe, tout vécu. Il lui manque peu de choses pour faire le tour de sa vie. Il n'a que 25 ans. C'est juste incroyable. Et si ça se passe comme ça là maintenant, c'est que le garçon, c'est un signe. C'est les premiers signes du
pétage de plomb.
J'ai envie de vivre. J'en peux plus. C'est trop pesant. Laissez-moi respirer. Laissez-moi vivre normalement. Parce que et Condé a bien raison. C'est des vies qui sont quasi invivables. On pourrait se dire ils sont en jet, ils gagnent des millions, etc., etc. Oui, c'est très bien. Mais t'es qu'un homme avec la façon de penser, etc. Tu vis avec des. Voilà. Donc c'est très compliqué de subir tout ça. Il n'a que 25 ans. Il aurait 70 piges. Toute l'expérience d'une vie, on pourrait comprendre que puis il pourrait avoir les épaules extrêmement larges pour supporter tout parce qu'il a une énorme expérience. Il est né en 98.
Oui, vous rendez compte, c'est incroyable. Il faut faire attention. Il pète pas les plombs. Il va au restaurant et il va boire un coup en boîte de nuit. C'est pas ça péter les plombs. Ça va. Il va au resto, il va boire un coup, il a le droit d'aller.
Il y a Marco qui nous dit sur le direct studio, EasyJet en plus faisait des promos sur le Madrid Stockholm le jeudi. Opportunité à ne pas rater.
Non mais ça aussi, on en parle. C'est Madrid Stockholm. Lui pour le jet privé. C'est pareil. Puis c'est un mec pour le TGV pour faire Paris Biarritz et aller passer le week-end avec ses copains sur un club de base. Pour eux, c'est exactement pareil. Hein.
Oui, mais c'est pas le même prix.
Ok, bon, en tout cas, vous avez avancé des arguments.
Il fait déjà nuit à 3h de l'après-midi.
Vous avez avancé des arguments. A-t-on perdu Kylian Mbappé? On était parti à 83% oui. On est désormais à 84% oui. Vous avez même perdu un petit pourcentage.
Non, parce qu'on était bon.
Le débat est mal posé.
Vous avez été exceptionnel.
Le débat est très mal posé. On remercie Fabrice d'avoir été avec nous au 32-16 et Nicolas Pelletier, notre fin limier que vous pouvez retrouver les dernières informations sur rmcsport.fr. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour parler de Tadej Pogacar. Les doutes autour de ses performances. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h32, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi avec ce matin David Douillet, Christophe Cessieux, Denis Charvet, Julien Beneteau. Dans 10 minutes, restez bien avec nous. La crise de la soixantaine de Christophe Cessieux. Arrêtez d'insulter les arbitres. Il va nous parler des joueurs de tennis cette semaine. Pierre Mignoni. 59 ?
Même pas.
Si bien tassé les 59.
Il les a eu, hein, t'inquiète pas.
La crise de la soixantaine, c'est donc dans 10 minutes. Restez bien avec nous. On parlera des arbitres et des acteurs du sport. C'est la dernière grande course de la saison, le dernier monument de la saison. Et encore une fois, Tadej Pogacar sera le grandissime favori, vous le savez. Le nouveau champion du monde va tenter d'égaler un record inouï, remporter un quatrième tour de Lombardie de suite. Seul Fausto Coppi a réalisé cet exploit, une dernière course pour clore une année exceptionnelle qui suscite l'admiration et parfois les interrogations. Mais j'ai les doutes. Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, ne s'en est pas caché cette semaine dans la Dépêche du Midi. Voici ce qu'il dit. Vu le passé du cyclisme et pas si lointain, la question n'est pas illégitime. Je n'ai pas de réponse. Le champion slovène en a une de réponse au propos de Christian Prudhomme. C'était hier en conférence de presse. La punchline DGG, Tadej Pogacar.
RMC, la punchline GG.
Cycling is a sport that in the past,
le cyclisme est un sport dans lequel les gens ont fait par le passé tout ce qu'ils pouvaient pour être les meilleurs possibles. Ils ont risqué leur vie et on l'ignore, mais beaucoup sont aujourd'hui sans doute malades à cause de ce qu'ils faisaient dans le passé à leur corps. Aujourd'hui, il n'y a aucune confiance. On espère qu'un jour, les gens recommenceront à y croire. Le vainqueur est toujours suspecté d'être un tricheur, mais peut-être que les gens oublieront le passé et ce que des gars comme Armstrong ont fait. Le cyclisme est un sport suffisamment dangereux pour mettre sa santé en danger. Si on veut risquer notre santé et notre vie pour des années de carrière et souffrir le reste de notre vie, c'est stupide. Mais il y a toujours des gens qui sont jaloux et suspicieux et on ne peut rien faire contre ça.
Et voilà la réponse claire de Tadej Pogacar.
Meilleur cycliste qu'avocat.
Faut-il faire confiance à Pogacar ? Oui ou non ? Christophe Cessieux.
Moi, j'ai envie de lui faire confiance.
Il a envie. David Douillet.
Ouais, moi aussi. Voilà.
Julien Beneteau.
Moi, j'ai envie de lui faire confiance, mais on est obligé d'avoir des suspicions.
Donc, tu dis non.
Plutôt non.
Plutôt non.
Oui.
Alors, franchement,
tu sais ce qu'il dit le Roquefort.
Ah oui, c'est encore une fois le camembert qui dit au Roquefort, tu pues, hein, quand même. Ouais. Hein. C'est Denis Charvet qui recadre Julien Beneteau sur le oui ou le non. Bah,
oh,
vas-y, Denis.
J'avais raison.
Bah, vas-y. Bah, t'as raison, mais vas-y.
Moi, j'ai la même chose que Julien.
Ah, vrai,
je dis non parce que, voilà, le passé de ce sport me fait dire non, c'est tout.
Oui, voilà.
Mais j'ai envie d'y croire comme
il donne des mauvais arguments là.
Voilà.
Il donne des mauvais arguments.
Le passé de ce sport.
Quand il dit c'est pas parce que Armstrong a fait ça que tous les autres
Tu veux qu'ils disent.
Non mais bien sûr.
Si se justifie.
S'ils pensent que on va mettre en péril le sport, le cyclisme, c'est un sport déjà suffisamment dangereux pour mettre en péril notre santé pour des années de carrière.
Quoi, t'aimes pas cet argument?
Oui, il a raison.
Mais c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, ceux qui se dopent, c'est tellement bien fait, etc., qu'ils mettent même plus en péril leur carrière.
Quand il y avait les suspicions sur Armstrong, moi c'était la limite que je me dis. Je me dis comment ce mec qui est passé à deux doigts de la mort peut prendre des produits et je n'y croyais pas à cause de ça. Je me disais c'est pas possible. Quand t'es vraiment passé si proche de la mort, tu peux pas prendre des produits qui peuvent mettre en danger à nouveau ta santé.
On rappelle pour nos auditeurs qu'il avait eu un cancer.
Et il est en meilleure santé aujourd'hui qu'avant.
Par rapport à Julien dans sa déclaration de Pogacar, moi ce qui m'ennuie, c'est que quelque part il dédouane tout le monde. C'est-à-dire que pour lui, il y a pas le cyclisme est propre, il n'y a pas de dopage. C'est ça qui m'interpelle dans sa réponse.
T'en as beaucoup dans tous les sports qui te disent. Moi je suis pas dopé, mais enfin tous mes camarades.
Non, mais je trouve sa réponse
de mon sport, ils se chargent.
Ça me suffit pas. Sa réponse est maladroite.
C'est le seul coureur. C'est l'icône de son sport actuel et c'est le seul à qui on pose une fois par semaine. Une fois tous les
quatre jours.
Les questions sur le dopage.
C'est horrible.
C'est les seuls. Ils sont interrogés.
Mais oui, mais
je suis d'accord. Mais tu sais, mais pourquoi?
On pose la même question à Vingegaard.
Comment?
On pose la même question à Vingegaard.
Mais bien
aussi.
Sûr,
voilà, oui. C'est Pogacar qui est. Ce sont les deux meilleurs du plateau aujourd'hui et ils ont les mêmes attaques, on pourrait dire. Moi, ce que je voulais dire, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous posez des questions sur Eddy Merckx? Moi, personnellement, non. Est-ce que vous posez des questions sur Bernard Hinault?
Bah oui, mais ça, c'est
non plus.
Mais
l'histoire, c'est le cyclisme.
Les copains,
c'est le cyclisme. C'est l'histoire du cyclisme. Or, dans l'histoire. Ben oui, c'est l'histoire du cycle. Dans cette histoire, il y a eu quelques abrutis qui ont fait n'importe quoi, qui ont entaché le cyclisme. C'est pas pour ces raisons-là que ceux qui aujourd'hui s'arrachent sur des vélos sont des escrocs de la victoire, comme l'ont pu être quelques-uns.
Non mais le seul problème qu'il y a, c'est que le cyclisme, par rapport, on va dire. Un sport collectif, rugby, football, ou un sport, des sports individuels, où il y a de la technique, où il y a de la tactique. Dans le cyclisme, il y a de la tactique, je suis d'accord. C'est quand même un sport à dominante physique et physiologique.
Parce que c'est un sport long.
Totalement.
Oui. Et en fait, c'est facilement quantifiable. Et le problème, c'est que dans cette historique.
Mais personne ne quantifie vraiment.
Mais si. Laisse-moi finir. C'est qu'il y a des coureurs. Qui ont fait telle ou telle performance sur tel col, dans telles étapes, et qui ont dominé leur truc, et qui ont été pris, chargés positifs, dopés. Et ces valeurs-là, elles sont explosées par Pogacar, Vingegaard.
Oui, quand Pogacar met 2 ou 3 minutes au Galibier sur
Port Salut, voilà, ça pose un problème. Et c'est ça le problème.
C'est des valeurs qui ont été rétablies il y a 25 ans.
C'est pas
sur
vrai,
des
pas
machines. C'est-à-dire que.
D'accord, il n'y a pas de progrès.
Mais tu as vu un peu les différences que ça a fait quand les nageurs ont mis des combinaisons. Tu as vu ce que la technique, ce que le.
Oui, mais le vélo, ça a des limites après.
Les vélos ne sont pas du tout les mêmes aujourd'hui que ceux qui avaient 25 ans.
L'état des roues n'est pas du tout le même
qu'il y a 25 ans. La préparation physique des mecs n'est pas du tout la même.
Voilà.
Arrêtez de vous poser en 1997 ou 98. Les choses ont changé. Des records du monde ont été battus dans toutes les disciplines.
Mais ils vont beaucoup plus vite aujourd'hui.
Monte sur un vélo aujourd'hui.
Les Armstrong, les Contador, les Basso, c'est pas 95, 96, c'est 2006, 2007, 2008. C'est il y a 15 ans. Les vélos ont peut-être changé, mais c'était déjà des énormes pros. Armstrong, au niveau nutrition, au niveau truc, en plus de pages, c'est des énormes pros. Ces valeurs-là sur lesquelles tous ont été positifs. Je disais à Ivan Basso, Contador et compagnie. Et tu prends leur truc. Je ne parle pas de Pantani des années 90 ou de Virenque et compagnie. Le gros problème, c'est que physiologiquement.
Mais toi, j'ai une question à poser à Christian, qui est quand même le spécialiste du vélo. Hein. Je veux dire, ça t'interpelle pas, toi, tu les vois à longueur de journée, les performances de Pogacar.
Alors, c'est le seul truc qui m'interpelle réellement.
Mais bien sûr que tu es. Ce que je disais là, c'est qu'on peut pas être serein complètement quand on suit le vélo. Quand on suit le vélo, qu'on voit une performance hors du commun. Moi, l'été dernier, on était là, dans notre petit camion RMC à commenter la course. Quand Pogacar gagne 1, 2, 3 et qu'il éclate tout le monde. À un moment, on se regarde et on se dit,
obligé
on y
penser.
Croit ou on n'y croit pas.
Et oui.
Et évidemment qu'il y a une petite lumière qui s'allume au
vélo aujourd'hui.
Tu ne peux pas t'enthousiasmer sur le vélo comme tu t'enthousiasmes sur le tennis, sur la natation, sur le ski de fond, qui sont évidemment des sports qui n'ont jamais connu le dopage, par exemple. Ouais.
Non, mais c'est ironique. Je suis d'accord. Il pratique un cyclisme qui doit te rappeler celui d'Eddy Merckx quand il part à 100 km pour être champion du monde. C'est exceptionnel. Et moi aussi, j'ai envie d'y croire.
Quand David dit que Merckx n'était pas dopé, c'était pas le même dopage qu'aujourd'hui.
Mais j'ai envie d'y croire, c'est fantastique.
Le dopage, malheureusement, fait partie de l'ADN de ce sport. Dans les années 30, quand les journalistes de l'époque suivaient le tour, il y avait l'interview des frères Pélissier qui gagnaient, ils te racontaient, alors on prend de la cocaïne pour les yeux, on prend le machin. Tu suivais le peloton du Tour, ça sentait l'éther. C'est des dires qui ont été racontés dans les années 20, dans les années 30. Ça fait partie de l'ADN de ce sport. Parce que, évidemment, c'est tellement dur. l'éther. Non,
mais ça, David, tu voulais réagir. Tu veux dire. Et peut-être sur le plaisir parfois un peu gâché quand on regarde une course, quand on voit Pogacar qui attaque à 100 km de l'arrivée, on a envie de s'enthousiasmer, on a envie de se dire, mais c'est une œuvre d'art ce qu'il vient de faire. Et en fait.
Mon plaisir, il n'est pas gâché, parce que je me dis que je suis peut-être naïf, je suis peut-être con, vous pourrez m'accuser de tous les maux.
Mais t'as le droit aussi,
j'ai le droit de m'émerveiller vers des prestations qui sont extraordinaires.
T'as le droit d'être en rang fort.
Aujourd'hui, alors peut-être que dans 4 ans, 5 ans, 10 ans...
Moi aussi, je suis comme toi.
On est d'accord avec toi, David. Mais laissez-le parler, c'est fou ça. Vas-y David.
J'ai compris le truc. Je vais pas rentrer.
Bravo.
Mais dans 5 ou 10 ans, on va tous déchanter parce qu'il aura été déclaré positif à tel produit que personne connaissait. Mais en tout cas aujourd'hui, je m'enthousiasme. Je me dis Amerx, on en a connu qu'un pour l'instant. On a eu notre Bernard Hinault. Mais c'était pas forcément Eddy Merckx, et Dieu sait si je l'adore, mon Bernard, etc. Et peut-être que là, on tient le deuxième Merckx. Voilà, avec ce niveau-là. Bon, et que Armstrong, qui a triché comme un porc pendant toute sa carrière, c'était qu'un médiocre cycliste qui a triché et qui était en réalité est un escroc, et ça se sait. Donc, c'est un médiocre, c'est un petit face à des grands noms, comme peut-être Pogacar demain, et Merckx qui l'est déjà. Voilà. Et je m'émerveille de
oui,
ça.
Face à des phénomènes du vélo.
C'est comme ça. Voilà, on est peut-être face à un phénomène, et moi, ça me fait rêver. J'ai pas envie
Ce qui est important, c'est qu'on regarde le Tour de France avec les mêmes yeux que par le passé. Il y a quand même des
oui, mais on rêve encore. Et on peut jamais.
On va pas l'accuser de choses qu'il a pas faites.
Oui, mais Lance Armstrong, on était émerveillés. Même oui, si c'est c'était vrai, un sale type dans le peloton. Alors
non, Pogacar, c'était un sale type.
Oui, mais Pogacar, il fait plaisir dans le peloton et tout le monde l'aime. Lance Armstrong, c'était peut-être un sale type, mais on se disait, il a vaincu le cancer, les premières années de France.
Ça s'est ensuite retourné. Les deux, trois premiers Tours de France, effectivement, tout le monde était halluciné de sa performance et tout le monde disait magnifique.
Et puis, entre nous, soit dit.
Parce que son attitude était déplorable et parce que, franchement, ses victoires commençaient à être très.
Okay. Et entre nous, ça dérange que nous, le dopage, je vous assure, malheureusement. Parce que vous allez dans la rue, vous questionnez, vous posez la question aux gens, les gens n'ont rien à foutre.
En revanche, quand tu dis que t'aimes le vélo, tout le monde. Ah ouais, deux sports de dopé. On t'a déjà dit aussi, David, ça.
Légitimer en disant.
Oui, bien sûr. C'est bien
ça, David. Ok, non. 10h44, on se retrouve dans quelques instants. La crise de la soixantaine. Est-ce qu'il fait sa crise de la soixantaine ou non?
Il l'a pas.
Est-ce qu'il a raison?
Attention. N'ai pas 60 ans.
Oh. 59 ans, bien tapé, 60 ans le 20 avril prochain. Christophe Cessieux, c'est son coup de gueule, arrêtez d'insulter les arbitres. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h47 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin David Douillet, Christophe Cessieux, Julien Beneteau, Denis Charvet. À partir de 11h, l'une des informations de la semaine, c'est évidemment le Paris FC racheté par la famille Arnaud et le groupe Red Bull. Le Paris FC peut-il faire de l'ombre au PSG? On en débat à partir de 11h. On vous attend évidemment, supporters parisiens, hein, soit du PFC, soit du PSG. On vous attend au 32-16. On débattra de ça avec les GG qui ne sont pas d'accord. Mais tout de suite, vous le savez, c'est une nouveauté depuis la rentrée. Le 20 avril prochain, il aura 60 ans. C'est l'instant Christophe Cessieux.
RMC.
C'était nul. De tous les points de vue, quoi. Je veux dire, on peut pas faire plus nul.
La crise de la soixantaine.
Oui, moi j'en ai marre. J'en ai ras le bol.
Ah, la crise de la soixantaine avec Christophe Cessieux que l'on adore tous les samedis à 10h45. Il vient piquer sa crise. Et à vous de me dire ensuite, les GG, si vous trouvez ça totalement légitime ou si c'est une petite crise de la soixantaine. Christophe Cessieux.
Alors, ce dont je vais vous parler ce matin n'est pas nouveau. Depuis que le sport est sport, les décisions arbitrales ont toujours été discutées, souvent âprement, et les arbitres bousculés, voire insultés par les joueurs. Rappelez-vous, par exemple, de ce que disait un jour John McEnroe à Monsieur James, arbitre de la rencontre Gullickson-McEnroe. C'était au premier tour de Wimbledon en 80. Ça fait partie aujourd'hui de la légende du tennis. Donc, c'était après que l'arbitre ait annoncé le service de l'Américain faute.
You cannot be serious.
Tu ne peux pas être sérieux. Cette balle a touché la ligne. La craie s'est envolée, c'était clairement bon. Comment est-il possible que tu aies mal vu? Tout le monde l'a vu dans le stade et tu oses dire le contraire. Explique-toi. Vous êtes ce qu'il y a de pire dans le monde. Est-ce que vous le saviez ça? Je vais vous retirer un point, Monsieur McEnroe. Je ne vais pas accepter qu'il m'enlève un poids parce que ce type est un incompétent, un imbécile. Vous le saviez ça ? Voilà ce qu'il est. Voilà, des insultes à ne pas mettre entre toutes les oreilles et qui a fait en partie la légende de McEnroe, le sale gosse génial qui avait souvent maille à partir avec les arbitres, ce qui lui vaudra quand même quelques années plus tard de se faire exclure de l'Australian Open après avoir reçu 3 avertissements. Mais si on écoute ça aujourd'hui avec le sourire et en se disant que ce mec était génial, ben je suis pas sûr que cela ait fait autant de bien que cela au tennis et au sport. Parce que l'exemple du meilleur joueur de la planète qui se permet presque en toute impunité d'insulter les arbitres a depuis fait des petits. Et aujourd'hui, certains, qu'ils aient ou non le même génie que McEnroe, se permettent à leur tour d'injurier les arbitres de manière de plus en plus brutale, comme l'a fait cette semaine à Shanghai l'Américain Francis Tiafoe, après avoir été sanctionné d'un point par l'arbitre, ce qui lui a ensuite coûté le match et provoqué sa colère. Phrase qui se passe de commentaire et traduction.
Fuck you, man. Fuck you. Seriously, man. Fuck you. Just fuck me, this fucking man. Fuck you. What? What? All these guys enjoy entertainment. You fuck the matchup. Great fucking job. Fuck you.
Voilà, Tiafoe qui pète littéralement les plombs. Il va mettre de longues heures avant de se calmer et de réaliser l'ampleur de sa faute, avant de s'excuser auprès de l'arbitre par réseaux sociaux interposés. Je présente mes excuses sincères, écrit-il, pour la façon dont j'ai agi ce soir. Ce n'est pas ma façon d'être et ce n'est pas la façon dont je veux traiter les gens. J'ai laissé ma frustration prendre le dessus sur moi. Alors on dit que faute avouée et faute à moitié pardonnée, certes, mais je ne suis pas certain qu'il faille que les officiels de l'ATP raisonnent ainsi et fassent preuve de clémence pour ses propos vraiment très 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 dur. Et pour ces insultes, Tiafoe risque quand même entre 21 jours et un an de suspension. Alors je vais pas crier avec les loups et demander que Tiafoe soit exclu du monde du tennis durant une année, mais il n'empêche, ce genre de comportement ne doit pas rester impuni. Au contraire, même, il faut sanctionner de manière à décourager d'autres à avoir ce genre de comportement. Et je peux comprendre évidemment la frustration d'un sportif. Moi, j'ai pas été sportif de haut niveau, mais Denis, Julien et David savent bien ce que c'est et savent que de temps en temps, tu peux péter les plombs. Et ça peut te faire perdre ton match et perdre aussi des milliers de dollars. Mais il n'empêche, ces comportements donnent un exemple déplorable aux jeunes joueurs qui regardent leurs idoles à la télé, par exemple, et qui ensuite reproduisent ces comportements sur les cours en se disant que si le 17e joueur mondial peut se permettre de faire ça, pourquoi pas moi ? Voilà. Donc c'est un très mauvais exemple. Et ce fléau n'est pas l'apanage du tennis, loin de là. Rappelez-vous du comportement de Mehdi Benatia, le conseiller sportif de l'OM, à l'égard de l'arbitre de Lyon-Marseille. Certes, il n'a pas insulté l'homme sifflé, mais c'est tout comme, et cette faute n'a pas été atténuée, loin de là, après que celui-ci, sûr de son fait, sûr de s'être fait voler par un arbitre malhonnête, ait répété à froid ses propos sur le plateau de nos confrères de DAZN. Catastrophique, là aussi, en termes d'exemples donnés, et on ne s'étonnera pas ensuite que des arbitres dans des ligues inférieures se fassent insulter, voire frapper. Le dernier exemple que je voulais vous donner, c'est celui de Pierre Mignoni, le coach du RC Toulon, lui aussi a rendu complètement dingue, dimanche dernier par les décisions de l'arbitre du match Clermont-Toulon, rencontre perdue en toute fin de match par les Toulonnais. Il a fallu ce soir-là que l'un des joueurs de Mignoni, un costaud, s'interpose pour empêcher son coach d'aller dire son fait à l'arbitre, voire plus. Mignoni, qui tout comme Tiafoe, a ensuite réalisé l'ampleur de sa faute et s'en est excusé. Mais Mignoni est allé plus loin que cela en décidant qu'à l'avenir, il ne prendrait plus place auprès de ses joueurs en bord de touche. Désormais, les matchs, il les verra de la tribune. Il s'en est expliqué au micro de Florent Germain.
J'envoie aucun message. Je me suis exprimé. Je pense que je suis un grand garçon. Des fois, on peut faire des erreurs. On en fait tout dans notre vie, donc je le dis. Et donc, je prends des décisions et j'assume. C'est tout. Mais après, la commission, j'irai, je les connais, on se connaît très bien. Je vais discuter, il n'y a pas de problème. J'assumerai.
Le coach toulonnais au sang chaud se sait faible de ce côté-là. Il sait qu'il peut lui arriver de péter les plombs et pour ne pas sanctionner son équipe ou même donner le mauvais exemple, eh bien préfère s'auto-punir de manière à ne plus être tenté de faire n'importe quoi. Personnellement, je trouve cette décision sage et en l'occurrence, elle montre l'exemple. Tout le monde peut être un jour tenté de s'en prendre à l'arbitre, le jugeant responsable de ses malheurs sur un terrain. Oui, des fautes arbitrales, ça existe et ça existera toujours, à moins de complètement faire disparaître l'humain de la décision. Mais en attendant, il faut faire avec et on ne doit plus tolérer que les insultes, les menaces, voire les coups pleuvent sur un terrain.
Merci Christophe pour cette crise de la soixantaine. Bravo. D'accord avec lui ou pas?
Il a raison. À 1000%, il a raison.
Donc c'est pas encore la crise de la soixantaine.
Non, il est bien.
Ah non, non, c'est très moderne, très jeune.
Très moderne, je sais pas.
Mais en tout cas, ça nous est tous arrivé.
Précurseur.
Moi, ça m'est arrivé de péter les plombs, d'insulter l'arbitre, d'être suspendu 6 matchs et de louper la tournée en Australie avec l'équipe de France. Donc j'avais été sanctionné sévèrement. Et puis, ouais, tu me dis aujourd'hui si je le regrette, oui, je le regrette. Je le regrette parce que ça a été une réaction épidermique que j'avais pas, que voilà, que j'avais pas à me permettre.
Ok, mais est-ce que le mal n'est pas fait, déjà? Est-ce que ça sert à quelque chose, maintenant, de s'excuser derrière, Julien?
Non, rien. De s'excuser une fois qu'on a pété les plombs? Bah oui, le mal est fait. Mais donc, il faut. Mais on est obligé de. De s'excuser, oui, il faut sanctionner.
Quand
évidemment.
Tu entends ce qui s'est passé, là, Francis Siafoué, t'es tombé des nues ou pas?
Oui, je suis tombé des nues. Après, oui.
Surtout,
après.
D'autant qu'il y en a d'autres en plus.
Ouais, il y a des raisons. Si on prend l'exemple du tennis, parce que là, il y en a eu deux ou trois.
Il y a eu Zverev aussi.
C'est multifactoriel. Les joueurs sont en tort, je ne suis pas là pour les dédonner, ils ne doivent pas réagir comme ça. Mais les arbitres font des erreurs parce que l'arbitrage dans le tennis est en train d'évoluer. Le fait qu'il n'y ait plus de juge de ligne, le fait qu'il y ait truc. Les arbitres perdent toute responsabilité. Ils sont là juste pour compter le score. Et dès qu'il y a un fait de jeu, mais ils ont moins l'habitude de gérer les choses. Donc, ils sont en train d'affaiblir l'arbitrage dans le tennis par rapport à ça.
Ils sont moins concentrés, tu veux dire.
Exactement. Et la longueur des saisons fait que les joueurs sont rincés et pètent les plombs. Ouais. Et quand t'es fatigué, ou quand tu pètes plus facilement les plombs. Ce n'est pas excusable pour autant, mais je veux dire,
mais voilà. Tu l'expliques
exactement.
Okay. Ce qu'a fait Mignoni, c'est extrêmement rare. Hein. J'ai rarement vu des
il s'est auto-sanctionné.
Oui, auto-sanctionné. C'est une dignité incroyable. Il a reconnu sa faute, donc ça, c'est la moindre des choses. Mais de faire ce qu'il fait là aujourd'hui, c'est chapeau à lui.
David, toi, dans ton sport noble, où il y a beaucoup de respect, est-ce que tu as déjà pété les plombs comme ça?
Non. Non. D'autant que non. Parce que tout petit, on est habitué.
Exactement.
On est habitué. Voilà, c'est.
Moi aussi, petit, je t'ai
habitué. La salutation.
Non, mais tout de suite, chez vous, David, je me permets de prendre l'exemple qu'il y a eu.
Oui.
Aux Jeux Olympiques avec Teddy Riner.
Ouais, avec.
Bah exactement.
Et oui, heureusement que lui n'est pas tombé aussi dedans parce que dans la provocation de son adversaire, sinon, même s'il avait gagné le combat, il aurait pu être disqualifié pour le reste de la compétition.
Absolument. Voilà. Absolument. Non, mais c'est une question d'éducation. Mais en même temps, tu sais, t'es tout seul sur le tapis.
C'est pas vrai.
Si, enfin, oui et non. Enfin, c'est un vaste débat, mais en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué dans les sports d'équipe de se contenir parce que, et puis aussi, il y a un contexte. Quand t'es dans un stade où il y a 40, 50, 60 000 personnes qui pousse, c'est pas du tout la même chose que quand t'es dans un stade de 5, 6 000, 10 000, même 15 000. C'est pas pareil. Voilà, le contexte est différent. Donc, faut remettre la. Nous ne sommes que des femmes et des hommes avec nos faiblesses. Et malheureusement, nos faiblesses, quelquefois, nous conduisent, et je suis pas exempt de tout ça, avoir ce type de déviance.
Ça me rappelle du Denis Charvet, ça. Avec un cœur d'homme, dans un cœur d'homme, avec des hommes et dans un cœur.
Je sais plus comment
tu l'as dit.
Mais
c'était très
bien. Mais tu vas pas me dire que je sens le Roquefort. Tu vas pas me dire que je sens le Roquefort, s'il te plaît.
Allez, 10h50.
Et même si je suis un camembert.
On se retrouve dans quelques instants avec mes fromages préférés pour parler du Paris FC. Peut-il faire de l'ombre au Paris Saint-Germain? Ce sera notre débat dans les grandes gueules du sport. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.